pour investir, le déchiffrage.
Avec nos invités qui vont se mettre en place, mais évidemment on va beaucoup parler technologie, IA, logiciel. Nous rejoignent en ce moment sur ce plateau Laurent Grassin de Boursorama. Bonjour Laurent. Fun. Ainsi que Benjamin Watine de SoWeFund. Bonjour.
Bonjour.
Alors je le disais là pendant le tableau de bord, il y a quand même du mieux, voire du bien mieux sur le secteur des logiciels. Bon, sur fond de recomposition un petit peu du paysage de l'IA qui a été profondément perturbé par la géopolitique, ça évidemment. Et on a l'impression de revenir sur des fondamentaux un petit peu plus simples. Même si il y a quand même un cas emblématique hier, bon, qui nous a fait bien rire du côté de BFM Bourse hier après-midi. On l'a commenté en direct. Il y a une société, voilà, je vous raconte l'histoire si vous l'avez loupé. Il y a une société qui s'appelle Allbirds du côté des États-Unis qui fabrique, voilà, des baskets de daron, comme on dit chez les jeunes, enfin, des pompes pour
vous
vieux. Non, je ne sais même pas si ça se voit en France. Allbirds, je ne connais pas. Je connais Skechers, hein, ouais, qui est un peu dans le même, ouais, genre. Et bon, Allbirds, c'est une marque sur le déclin. Voilà. Ça fait partie de ces marques où on voit des boutiques, mais on ne voit jamais les chaussures aux pieds des gens. Bon. Et ils se sont dit, bon, ben voilà, ce qu'on va faire, on va arrêter de vendre et de fabriquer des chaussures. Maintenant, on va acheter et vendre des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. Le truc, bon. Bon. Tout le monde se dirait de raisonnable, ouais, non, mais où est-ce qu'ils vont ces gens-là? Ben, le titre a pris jusqu'à 800% en bourse hier. En plus, ils ont changé leur nom. Maintenant, ils s'appellent Newbird AI. Alors, je me souviens d'une époque où on rajoutait blockchain partout sur le nom, oui, des entreprises pour les faire grimper en bourse ou .com.
Oui, ou Antoine, on pourrait parler de toutes ces sociétés qui se sont réinventées en Bitcoin Treasury Company aussi.
Oui, hein, exactement. Aussi.
Beaucoup plus récente, beaucoup plus proche de nous. Hein.
Tout à fait, les pages jaunes, etc.
Donc, je n'ai pas de l'IA dans les chaussures.
Voilà,
non, mais c'est ça. Vrai, on aurait pu le penser. Non,
oui. Est-ce que c'est l'IA qui va te faire courir plus vite? Ça, je ne sais pas. Mais non, mais voilà. Malgré quelques cas un petit peu ponctuels qui relèvent de l'anecdote, on a l'air de repartir quand même sur des fondamentaux peut-être un petit peu plus sains. Je ne sais pas. Ça revient sur les logiciels, ce système Capgemini. On se dit, on est peut-être allé trop loin dans le « toute manière, l'IA va tout détruire », etc. Le réflexe conditionné est peut-être en train de s'estomper. Avec une reprise des investissements de manière un petit peu plus saine. Est-ce que c'est cette impression-là que vous avez, Laurent ?
Oui, mais dans un secteur comme ça, ou dans un marché aussi qui est devenu effectivement très volatile, où la thématique IA, elle porte véritablement des flux hyper importants, c'est vrai qu'il y a des réactions émotionnelles, émotives. On va peut-être y revenir parce qu'on parlera peut-être de private equity, mais
évidemment,
une partie du crédit privé, c'était que tout d'un coup, tout le monde a tiré les traits en se disant, mais finalement, on finance des entreprises de logiciels qui vont toutes faire faillite parce qu'elles sont peu profitables. Il n'est pas ici question de dire qu'il y a zéro risque, mais on a tiré les traits tout de suite vers le scénario le plus apocalyptique. Il reste aussi une variable qui est hyper importante, c'est la vitesse d'adoption au sein des entreprises de l'intelligence artificielle. Et c'est là aussi où je pense que tout le monde l'a connu dans sa boîte, que ce soit en France ou à l'international. Il y a ce moment où tout le monde découvre l'IA, tout le monde fait sa roadmap IA, c'est hyper ambitieux, on va tout changer. Et puis au bout de 2 ans, on a avancé sur 1 ou 2 cas pratiques, cas d'usage, mais on n'a pas avancé si vite que ça et ça n'a pas non plus complètement bousculé les modèles. Dans l'édition,
on est toujours obligé de faire nos notes de frais à la main. Hein.
Exactement, c'est pareil. Enfin, prenez un exemple vraiment emblématique sur la génération d'images. On s'est dit, aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes Adobe, vous avez peut-être été un peu secoué, mais vous intégrez ces solutions dans...
Précisément.
Voilà, dans vos produits, vous n'allez pas non plus mettre à la poubelle des années de savoir-faire. Mmh. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, je pense que tout le monde revient un peu sur Terre. Alors, c'est pas dit qu'on ne reparte pas
dans
sur
les emballements. Excès,
ouais. Demain, Anthropique sort encore une nouvelle version de Claude et on se dit, mon Dieu, ça y est, il sait tout faire. Et on repartira sur exactement le même type de... Je ne crois pas beaucoup à la sagesse des marchés là-dessus. Mais en tout cas, peut-être là, un retour aux fondamentaux. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce qui a continué à monter sur l'intelligence artificielle depuis le début d'année, on est vraiment quand même... au cœur de ce qui est finalement derrière vous, hein, en image, le circuit intégré, la puce,
semi-conducteur.
Les gros succès de ce début d'année, c'est Intel, c'est Micron, c'est Marvel, c'est Lam Research, c'est Applied Materials, c'est Monolithic Power System, ARM Holding, KLA, ça, c'est pas forcément des noms qui parlent à tous les gens qui nous regardent, mais c'est plus 40% de hausse depuis le début de l'année sur
KLA, la c'est l'ancien KLA Tencor.
KLA, c'est leader mondial conception, production, commercialisation, procédé de contrôle, d'amélioration des processus de fabrication de semi-conducteurs.
Oui, donc, voilà.
Tout ce qui tourne autour de finalement le cœur de ce qui va être l'IA continue à marcher très bien. Je vais pas vous reparler des mémoires, même si c'est quand même extrêmement
important. Ça,
Western Digital, SanDisk, Seagate. Ouais. Donc voilà, d'un
HKNX,
côté,
HKNX,
d'un
en
côté
Corée.
peut-être qu'on se calme entre guillemets sur le côté un peu prophet of doom, mon dieu, l'IA va tous nous remplacer, mais de l'autre on voit bien que tout ce qui reste au cœur de ce qui va être capable de produire la puce la plus efficace, peut-être la moins consommatrice, etc., reste quand même très très dans le viseur des investisseurs.
Ouais, et je regarde Soitec, là ça reste une...
Et bien sûr, on avait parlé il y a deux semaines, Soitec
plus 182% en 3 mois.
Oui, parce qu'entre-temps, les analystes se sont dit que c'était bien et qu'on commençait à relever les objectifs de
cours
aussi.
Parce qu'à la fois, ils s'exposent plus à l'IA, mais en même temps, ils n'oublient pas de s'exposer et de fournir pour la bonne vieille 4G. Mmh. Et là, on répond à la fois aux dynamiques IA, mais aussi à la solidité des activités d'infrastructure, etc.
Exactement.
Non, c'est très bien vu. Benjamin Watine. Ce climat d'investissement là, qui semble revenir, peut-être sur des fondamentaux un petit peu plus solides. Il y a un truc qu'on a un petit peu oublié parce qu'on a beaucoup parlé de private equity, crédit privé. Il y a eu ça aussi qui a joué, etc. Quand on investit dans les startups et dans l'innovation en France, c'est quand même des capitaux considérables. On a passé des années et des années à courir après les licornes, etc. Bon, faut voir.
On court encore.
Voilà, on court encore, il n'y a pas de souci. Faut voir ce qu'il en reste un petit peu sur le long terme. Mais parallèlement, il y a aussi des petits changements du point de vue réglementaire, du point de vue fiscal. Et ça nous ramène à nos considérations et à nos éditions spéciales sur la loi budgétaire, qu'est-ce que ça va changer sur l'investissement au quotidien, alors votre assurance vie, machin et compagnie, mais aussi investir dans les startups. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a plein d'intervenants qui passent leur journée et leur carrière, qui passent à l'antenne, les Alexandre Leng, Carré Partners, etc. Je pense à lui en premier lieu. Mais vous aussi, globalement, comment ça se passe? Comment se porte le paysage de l'investissement dans les startups, là, à l'heure où on se parle?
Ben, ça reprend un petit peu. Aujourd'hui, le grand public, le particulier, prend le relais sur, on va dire, l'institutionnel. Mais si on revient à peut-être simplement au PLF, là, récemment, en 2026, il y a quand même des choses qui ont encore évolué. Donc, loi des finances, on l'a tous vu passer, flat tax, petite augmentation, rien de catastrophique, mais on vient encore renier un petit peu.
Ça fait pas plaisir quand même.
On vient renier encore sur nos rendements.
Le signal n'est pas très très bon.
Ça, c'est le premier signal. Nouveau signal, c'est que finalement, sur la partie IR-PME et sur la partie JEI-JEIR, on conserve l'avantage fiscal. Et donc, c'est important, là, en ces temps de déclaration d'impôts, de rappeler aux Français qu'ils ont l'opportunité d'investir dans l'innovation, dans les jeunes entreprises innovantes, mais qu'investir comporte des risques. Et donc, si on donne un avantage fiscal, l'État explique qu'il faut savoir prendre ce risque et l'assumer. Et c'est justement ce qui s'est passé pendant cette nouvelle loi des finances, c'est qu'on a durci un peu tout ça. Ouais. Et qu'il faut maintenant, à titre d'exemple, dans l'IRPME, on ne peut plus investir dans des sociétés qui avaient des pactes d'actionnaires rédigés de telle façon à ce qu'on puisse récupérer de manière quasi systématique son investissement initial, par exemple. Il y a des choses comme ça, plein de choses qui ont évolué en ce sens.
Ouais.
Les FCPI, FCPR, c'est fini depuis le 26 février dernier. Pas complètement fini. On peut investir dans des FCPR qui sont dédiés aux jeunes entreprises innovantes, justement. Donc, on vient renforcer ce côté innovation, ce côté deep tech. Et puis, il y a le sujet, simplement, il y a quand même une création. La JEII, Jeune Entreprise Innovante à Impact, qui permet donc de profiter d'un avantage fiscal à 40%. Donc, si on parle fiscalité, on conserve cet engagement de la part de l'État, mais pour combien de temps? Et ça, ce sera pas sans prendre les risques qu'il faut avec.
Ce qui est étonnant et peut-être un petit peu contre-intuitif, parce que parallèlement, alors là, je vais parler de la bourse, mais on se rend compte qu'aux États-Unis, par exemple, le retail, l'activité vraiment placement particulier, prend de moins en moins le relais des institutionnels en ce moment. C'est même... on a un sentiment de risque off sur le particulier américain qui veut investir dans la tech, qui a sans doute jamais été aussi fort, alors que les institutionnels, eux, reprennent leur lait. Donc on a l'impression que d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, il se passe des choses mais diamétralement opposées.
Ça a peut-être, on l'a dit, les investisseurs américains, ils sont quand même beaucoup, ils étaient déjà investis en bourse, mais ils l'ont plus fait après post-Covid, avec effectivement et sur le développement de l'IA sur les dernières années. Je pense qu'ils sont allés sur certaines thématiques avec parfois beaucoup de leviers. Je pense qu'il y a des gens qui se sont pris des paumes, mais je pense que ça, effectivement, sur un marché volatile, ça calme un petit peu. Alors que finalement, la façon dont les investisseurs particuliers investissent en France est quand même beaucoup plus sage, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Mais ça nous ramène à la problématique du début, c'est...
Comment on arbitre, en plus.
Comment on arbitre, et de manière... Voilà, ça repart, mais peut-être de manière un petit peu plus raisonnée, raisonnable, et avec des perspectives un petit peu plus claires.
Oui, puis il y a un peu aussi un retour du... on a envie de rediriger notre épargne vers l'Europe, un peu moins vers les États-Unis, enfin, même si je sais qu'il y a encore beaucoup d'investissements, mais un peu moins vers les États-Unis. Il y a ce côté souverainisme. Nous, on le voit aujourd'hui sur la plateforme. On parlait tout à l'heure d'avantages fiscaux, mais il y a aussi le fait que on finance un dossier comme Opus chez nous, qui est une petite fusée suborbitale qui vient pour essayer de défendre l'arrivée de potentiels missiles, puisque le hypersonique, donc c'est hyper complexe, mais les missiles hypersoniques, c'est des missiles qui vont 5 fois au-dessus de la vitesse du son.
On est à la fois dans le New Space avec des visées civiles, mais aussi des applications militaires.
Absolument. Aujourd'hui, l'écosystème et malheureusement la situation macro nous oblige.
Exige.
L'exige. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, ça c'est ressenti, c'est assez palpable et assez incroyable. Depuis 18 mois, le private equity, d'un autre côté, la défense et l'aérospatiale, énormément progressé et reçu de capitalisation.
Ouais, là aussi, avec des innovations publiques, BPI France, notamment avec son fonds de private equity consacré à la défense. Est-ce que c'est pas, justement, peut-être, je regarde Telsat, là, qui grimpe encore de 4,2%, la thématique qui s'organise chez nous, qui est centrée autour de la high-tech, de la défense et de la souveraineté, c'est peut-être le trio gagnant des dynamiques qui vont intéresser, alors déjà le grand public, et puis organiser des dynamiques de long terme pour les institutionnels.
J'aimerais bien, mais sur la dynamique d'investissement de la défense, on a déjà beaucoup parlé. Ça s'est déjà bien confirmé sur l'appréciation des différentes valeurs. On a quand même le sentiment, effectivement, que ça commence à se traduire dans les carnets de commandes. Il y a forcément encore des marges de progression. On rappelle, on importe en Europe la plupart de nos armements, 70% pour reprendre à peu près le chiffre qui est accordé. Pour que ça se transforme véritablement en dynamique, il va falloir une véritable volonté européenne. Souvent, on parle du rapport Draghi, vous savez, et c'était amusé à faire, dans l'organisation que je suis, à faire un tracker du rapport Draghi. On a appliqué 14% aujourd'hui des préconisations qui étaient dans ce rapport. Donc, le chemin reste long.
Oui, mais j'allais vous dire, paradoxalement, il y en a quand même 14%.
Oui, c'est
totalement contre-intuitif. Il y aurait pu en avoir zéro.
C'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, pour les questions de souveraineté, on se repose des débats qu'on s'était plus posés depuis des années.
Absolument.
Que ce soit dans la défense, dans la pharma, dans le paiement.
Ouais.
Et ça, au moins, ça fait du bien.
Oui, mais... on le voit paradoxalement, la problématique de défense qui est quelque chose qui devrait unir les volontés, par exemple, du côté de l'Europe. Dassault et les Allemands, ça a l'air de plus aller du tout sur l'avion de combat du futur. Ouais. C'est très intéressant ce cas d'école là qui est en train de se passer du côté de l'Italie, où apparemment Giorgia Meloni veut virer le patron de Leonardo. Pour des histoires politiques au premier abord, mais apparemment le problème est beaucoup plus grave, visiblement. C'est-à-dire qu'en gros, Leonardo a inventé un système qui globalement concurrence le Patriot pour 3 ou 4 fois moins cher. Et que Giorgia Meloni, elle, ça l'intéresse pas parce qu'elle veut continuer à acheter des Patriotes, parce qu'on est copains avec les États-Unis quand même encore un petit peu. Est-ce que la souveraineté, c'est pas une dynamique qui devrait unir tout le monde? Et au bout d'un moment, quand on parle de la souveraineté dans la souveraineté, là, on n'est plus d'accord avec personne.
Ouais, je pense, en tout cas, d'un point de vue investisseur, je pense qu'il faut aller plutôt sur de... Enfin, il faut se méfier des grands projets. Ça, je pense que les grands mécanos européens... Oui. En revanche, on voit bien que sur des commandes beaucoup plus précises, et c'est aussi pour ça que nos petites boîtes, les Exail ou les Exosens s'en tirent aussi bien, sur des matériaux, des matériels précis sur lesquels il y a un savoir-faire, où on n'est pas 10 ans à discuter d'un cahier des charges, ça fonctionne bien. Donc en fait, les groupes qui sont vraiment, qui sont capables de produire des matériels dont on a besoin, qui sont bien identifiés et autres, eux, ils vont vraiment voir leur carnet de commandes exploser. Mais c'est sûr que quand vous êtes embarqué sur que ce soit le char du futur, l'avion de combat du futur, les drones armés, en Europe, ça a quand même été un sacré sujet, ça. Bah,
Et puis, là, on continue d'utiliser des Predator et des Reaper américains.
Aller vraiment sur des choses plus simples, sur des sociétés qui ont qui sont sur des
parfois des marchés de niche, des segments
exactement, très spécifiques, savoir-faire de compétences, et là ça fonctionne bien.
Nos Exosens,
mais après on sort un peu du cadre, mais c'est vrai que là on devrait être capable d'avoir une vraie stratégie européenne. On a des acteurs qui sont quand même assez complémentaires.
Oui.
On a encore quelques trous qu'on devrait pouvoir essayer de combler avec les compétences qu'on a en Europe. Oui. Mais là, je pense qu'on n'y est pas encore.
Laurent Grassin, Boursorama, Benjamin Watin, Sowifond, merci infiniment d'avoir commenté cette actualité riche en problématiques high-tech, défense, souveraineté. Hein, ça reste vraiment la triade infernale pour ces mois à venir. Merci beaucoup.